Le moulinage en chantier. L'émission du collectif du moulinage de Chirol.
Moi, je lui dis, c'est une idée de parisien. Il aurait pu me répondre, toi, c'est une idée de paysanne.
Il y avait le docteur Sarul qui était avec nous, un des fils Plantevin, qui était aussi avec nous au conseil. Et on était d'accord, tout, mais les autres, non. Ils voulaient faire un écomusée.
Il m'a dit, mais tu te rends compte de l'écomusée, hein? Alors c'est là que je lui ai dit, tu rigoles à Chirol. À Vallon-Pont-d'Arc, oui, le tourisme à Chirol. C'est vrai, c'est quand même minime hein, à comparer à... Et puis finalement, ça tourne bien, quoi. Mais pour la commune, je pense que c'était pas mal non plus.
Et vous vous disiez pas à ce moment-là que de faire un musée sur l'histoire du moulinage, ça pouvait être quelque chose qui pourrait intéresser les gens?
C'est-à-dire, non, parce qu'on connaissait tellement l'usine que ça intéressait pas, hein. Oh, l'usine, voilà, ça, hein. C'était pas par manque de connaissances, c'était pas intérêt, non, c'était quoi, hein.
Elle est née en 1932, lui en 1927. À 92 ans, Étienne Vassal est le doyen de Chirol. Avec sa compagne, Josette Martin, 85 ans, ils ont ensemble été conseillers municipaux pendant la presque totalité du mandat d'Yves Paganelli, que nous avions accueilli dans la toute première émission du Moulinage en chantier. Tous deux ont un lien particulier et fort avec le moulinage de Pont de Verrières. Elle, parce qu'elle y a travaillé et côtoyé de près à une époque la famille des patrons, les Plantevin. Et lui, parce que sa grand-mère fait partie de ces orphelines marseillaises, accueillies à l'internat vers 1840. L'internat, c'est le bâtiment dans lequel le collectif du moulinage de Chirol a aujourd'hui pris ses quartiers pour y vivre, y travailler et y accueillir son public grandissant de bénévoles et d'adhérents. Étienne et Josette, natifs de Chirol et de Pont de la Baume, ne pouvaient s'imaginer que les lieux pourraient un jour attirer du public dans un écomusée, ni que leur Ardèche natale pourrait, dans les années 60 comme aujourd'hui, attirer tous ces étrangers, venus de loin, de la ville, leur bagage d'études sous le bras et le cœur plein d'envie de s'ancrer à leur tour dans le territoire. L'échange avec eux est riche en souvenirs, en réflexions, en émotions, en humanité. Cette quatrième émission leur est entièrement consacrée. Merci à vous, Josette et Étienne, pour ce précieux cadeau. Et à vous la parole.
Vous y avez jamais travaillé dans l'usine?
Ah non. Non, non. Moi, j'étais sur le chantier. J'ai fait le chantier, le barrage de Montbazin. Travaux publics. Puis j'ai fini au point de chaussée. Au point de chaussée. La dire qui s'appelle maintenant.
Ça a duré combien de temps, les travaux sur le barrage de Montbazin?
Moi, j'ai travaillé 5 ans, mais il a duré... Il a tout à fait au début, il a duré 49, oui, jusqu'à 55 ou 6. Remarque, c'est un boulot que aujourd'hui je ne le ferai pas. Hein.
Il gagnait beaucoup plus gros que nous à l'usine.
Ah oui, à peu près 3 fois le salaire d'un ouvrier. Quand un ouvrier il gagnait 30 000 francs,
non, 15 000.
C'était le bout du monde. Hein. Mais nous, des 85 000, c'était le courant. Mm-hmm. Eh oui.
Comment ça se fait qu'il y avait une aussi grosse différence de salaire?
Parce qu'il y a beaucoup de primes. Primes de galerie, primes d'altitude, primes de risque.
Ils n'étaient pas du même endroit. Ceux qui sont du Nord gagnent plus gros que nous ici, les ouvriers.
Les ouvriers du Nord?
Oui.
Du Nord de l'Ardèche?
De la France.
Ah oui?
Ils gagnent plus gros. Mm-hmm. Moi j'ai une cousine, son mari travaillait en Alsace et elle touche beaucoup plus gros que moi. Maintenant.
Ah, mais la Lorraine, c'est différent, oui, c'est vrai. Mais avec le climat qu'ils ont, moi, je préfère l'Ardèche. Oui.
Moi, j'y suis née à Lorraine-Forêt. Ça m'a jamais bien gênée. Et puis, on a fait notre maison, alors. Après.
Les gens du Nord, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup, quand même, ici, qui sont du Nord. Hein.
Oui, qui viennent d'ailleurs.
Voilà, oui, ils viennent ici.
Donc, vous avez travaillé à l'usine? À partir de quand?
De 14 ans. 14 ans jusqu'à... Eh bien, à ce que je me marie. Jusqu'à 18 ans. Et je suis partie en Angleterre, j'avais 17 ans. Pour travailler à l'usine aussi. La même usine qu'ici. Parce qu'on n'avait pas bien de travail. Alors, elle nous a envoyés là-haut. chez le patron d'ici, qui était maire de la commune.
C'est Jean Plantevin qui est allé ouvrir une usine en Angleterre,
oui.
C'est ça?
Mais il n'a pas ouvert, lui. Il était sous-locataire, comment c'est qu'on appelle ça, Étienne?
Quoi donc?
Monsieur Jean, il n'était pas patron de l'usine.
En Angleterre?
Oui.
Ah non, il est en sous-traitance. Parce qu'on a brûlé, l'usine a brûlé en 1936, je crois, par là. Et là, bon, il a fallu trouver du boulot ailleurs. Ouais. Alors ils sont partis en Angleterre et ils ont amené des ouvriers, bien sûr.
J'avais 17 ans quand je suis partie, c'est en 1949, oui, sans doute.
Et il a emmené combien de, ou envoyé combien d'ouvriers, ouvrières?
On était 6, on n'était pas beaucoup. Il avait plusieurs usines ici. Il en avait à Montposat, il en avait une à Oluire, il en avait une au
Sec. À Tuy?
À Tuy, oui, le tissage. Il en avait à l'Alvade.
Vous étiez beaucoup, beaucoup d'ouvriers et ouvrières et il en a choisi 6.
Ah mais non, il a demandé celle qui voulait partir. C'est pas tout le monde qui voulait, vous comprenez, c'était nouveau. Et alors les gens étaient un peu arriérés quand même ici. Les laisser partir les filles en Angleterre comme ça, sans savoir. Oh là là, on a été critiqués. Surtout moi qui étais la plus jeune. J'ai été critiquée, mais enfin, moi, mes parents m'ont laissé partir. Et j'étais bien contente à ce moment-là d'y aller. C'était nouveau pour nous. Et alors, j'y suis partie. Et finalement, quand on est partis les 6 premières, on était tellement bien que tout le monde l'a su, automatiquement. Et alors, après, il y en a eu qui ont été dévoués pour partir. Il en est parti après davantage, je ne sais pas combien, mais il en est parti pas mal. Après, c'était par groupe. 6, puis comme ça, petit à petit. Mais après, elles ne sont pas restées 2 ans, parce qu'on ne nous a plus voulu là-bas. Les gens n'étaient pas contents. On leur prenait leur travail, remarquez. C'est vrai, aussi. Mais autrement, on était très bien, hein. À côté d'ici, vous pensez, quand on écrivait qu'on avait l'eau de partout, on avait salle de bain, avec toutes les baignoires, avec les... Et puis chaque fille, on avait des robinets, on pouvait se laver, là. Et dans une petite maison, on était bien logé comme ici. Une petite maison où il y avait une chambre qui avait plusieurs lits, 5 ou... On était toutes ensemble. C'est bien simple, il y avait bien 6 lits, et oui, puisqu'on était 6.
Et vous êtes restée combien de temps en Angleterre?
Moi, je ne suis pas restée longtemps, 7 mois. Je suis été dans les premières à partir. Et après, alors au bout de 7 mois, je suis restée avec une copine, on n'était que 2. Et les autres sont descendues ici en France de nouveau. Et elles sont remontées avec d'autres, notre groupe. Et à ce moment-là, on m'a laissée partir avec ma copine, toutes les deux. On est redescendues.
Revenir en France?
Oui. Et oui, parce que moi, mes parents étaient seuls. Je me faisais toujours du souci, moi, pour mes parents, tout le temps. J'avais peur que je disais, mon Dieu, si tu y es pas, qu'est-ce qu'ils vont faire là-haut, à la campagne? On habitait à la campagne, hein, et ça faisait loin. Et je me faisais toujours, je me suis toujours fait du souci. C'est bête, j'aurais pu rester, moi aussi, un peu plus, mais jusqu'à 2 ans, mais pas plus, puisqu'on a, tout le monde est parti après. Ça a été vite fini. Maintenant, on était très bien. On avait un grand parc, on était bien. Ah, c'est le vin? Oui.
Oui. Oui, le vin, c'est le vin.
Et ouais. Où tu vas? Ça, c'est ma gâtée.
Quand même le 4 décembre, il a gelé, mais pas excessivement. Hein. Il a fait moins 4, c'est le bol. Et quand même, le mois de décembre, il était que maintenant, en janvier et février. Oui, mais il est court. Puis il n'y a pas quand même les idées, les divers rigoureux qu'il y avait avec. Ah non, non, non. C'est sûr et certain. Je me souviens quand j'allais à l'école, moi. On est allé à pied par la Calade et on montait à Chirol. La rivière était toute gelée, les ruisseaux tout gelés. sous le pont là de Verrières, on a faire du patinage sur la glace. Ah oui, oui.
Vous avez dû faire du
patin
à glace?
Comme ça, j'avais avec les patins, on court sur la glace. Puis, il y avait ça de glace. Hein.
Sur la Fontenière?
Non, sur le ruisseau. Oui, la Fontenière était gelée sous le pont. Mais les ruisseaux de la campagne, là, l'Aubignat, tout ça. C'était une autre époque. Là.
Moi, j'allais à l'école laïque. Il y avait deux écoles. Mais en fait, ça n'a pas d'importance, ça. À Chirol, je suis allée qu'un an, quand j'ai passé les certificats, les deux. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait.
Ah ouais, le certificat, c'était la base de l'école. Après le certificat, bon, on en sait assez pour ça. Hein.
Oh, mais ça va.
Mais aller. Remarquez bien que le certificat à l'époque, c'était pas le niveau du brevet, non. Mais disons qu'il y avait pas mal de choses. Hein.
Parce que je vois comment j'ai mon petit-fils, que, quand il passait son bac, je lui disais, mon vieux, qu'est-ce que tu fais des fautes? Et on me le fait passer le bac avec des fautes comme ça.
Il fallait faire les plaies, les déliés et tout, c'était impeccable. Hein.
Vous vous êtes arrêté au certificat d'études aussi?
Oui. Je l'ai eu parce que à l'école, j'étais plus fort au billet qu'un orthographe. Et alors, l'année du certificat, ma mère... Avec mon père, un jour, ils m'ont dit, à souper, alors ils m'ont dit, si tu réussis ton certificat, on t'achète un vélo. Ah, c'était de la psychanalyse bien avant l'heure. Et le mois de juin, le certificat dans la poche. Et le vélo un peu après, quoi. C'est pour dire qu'à ce moment-là, les gens n'étaient pas plus bêtes qu'aujourd'hui. Hein. Ils avaient calculé, ils ont dit, parce que mes pères l'auraient dit, il ne fallait pas me prendre en rose au poil. Les chiens, ils n'aiment pas, hein. C'est dans le sens du poil. Mais un robot au poil, ça les défrise.
Si, pas grave.
Et vous, quand vous êtes rentré à l'usine, donc c'était en quelle année quand vous êtes rentré?
En 49. Non, qu'est-ce que je dis, j'avais 14 ans. Non, je suis née en 32.
Donc en 46?
Oui, c'est ça. Quand j'ai eu le certificat, je suis rentrée à l'usine. Je languissais d'aller travailler pour gagner un peu des sous, de l'argent. Parce que ouais, mes parents n'étaient pas riches.
Vous avez un frère et sœur?
Oh, j'ai eu qu'un frère. Mais comme mon père a été prisonnier pendant 4 ans, alors on était seuls, tous les deux.
En quelle année il a été emprisonné?
Mon père? Ouais. Ah ben en 40, quand mon frère est né. Mon frère est né à ce moment-là. Et alors voilà, il n'a pas vu de 4 ans. Quand il est revenu, il avait 4 ans, il courait seul, quoi. Il marchait tout seul. Ah, ça fait bien vide, hein, quand c'est comme ça. Surtout quand il est revenu, il était méconnaissable. Il était maigre, mon père, on ne le reconnaissait pas tellement qu'il était maigre. Il avait comment ça s'appelle, l'estomac, un ulcère à l'estomac. Et alors, il n'était pas tellement en point. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez.
Il s'était fait prendre dans le coin, ou il était sur le front?
Ah, mais il était sur le front. Il était vers l'Alsace, il parlait beaucoup de l'Alsace, je sais. Et oui, mais c'était la guerre, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'était pas marrant, parce qu'on en a vu des... Surtout à Pont-de-la-Baume, c'était la route, ils descendaient tous avec leurs chariots qui étaient chargés de victuailles, de machines, tout ce qu'ils avaient, quoi, chez eux. Ils descendaient, et où ils allaient, ils savaient pas où ils allaient.
Les réfugiés.
Les réfugiés, les autres,
oui. Ça a été un peu en 40. Voilà. Ah, les guerres.
Ah, mais je sais qu'on ne savait pas où ils étaient. Et quand ils descendaient, mettons ma maman ou les autres qui avaient des prisonniers, demandaient à tous, vous les avez vus, où ils sont, où ils se trouvent. Et disaient, oh, mais on a les Allemands derrière nous avec qui nous suivent, alors il faut qu'on se dépêche. Alors ils filaient, ils ne savaient pas où ils allaient. Hein. Ah, c'était un peu... Moi, j'étais gamine, mais quand même, ça m'est resté, ça. Et même, j'ai eu... une fois, elle m'avait envoyé faire des commissions au casino. Comme elle gardait mon frère, je faisais un peu les commissions. Et alors, il est arrivé un sidecar avec un Allemand qui avait des bottes, vous voyez, jusque-là. Et un grand manteau, son casque, tout ça. Et bon, moi, qui avais guère plus de 8 ans. Eh bien, ça m'avait traumatisé longtemps, ça m'a traumatisé, ça. Je voyais toujours cet homme. Il m'a laissé passer, là, et la dame du casino m'a dit, je te donne tes commissions, mais tu ne me le payes pas, ta maman me le payera quand elle reviendra. Parce qu'elle a vu que j'étais un peu... Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça fait bien du bruit.
C'est un volet qui claque.
On dirait que c'est en bas.
Non, c'est le vin, elle n'a pas dit vous qu'il a fermé la porte.
Ah, peut-être. Oui. Et alors, ça m'était resté, ça m'a traumatisé. Madame m'a dit, la dame du casino, Madame Imbert, elle m'a dit, va vite chez toi, rentre vite. Eh? Mais je suis partie, oui, vite. Mais ça m'avait un peu...
Et quand votre maman, elle s'est retrouvée seule avec tes deux enfants, elle travaillait?
Mais non.
Non.
Elle ne pouvait pas travailler. Et un peu que ça marchait plus ou moins peut-être bien. Moi, je ne me rappelle pas bien de là. Comme j'avais que 8 ans encore. Mais enfin, non, elle n'a pas pu travailler. Mon frère venait de naître. Il aurait fallu qu'elle trouve quelqu'un. Elle voulait en garder, elle, des petits. Puis je ne sais pas comment ça a fait. Je crois qu'elle n'a pas gardé après.
Oui, donc à 14 ans, quand vous avez eu le certificat et que vous avez pu travailler, c'était un soulagement de pouvoir aider.
Et oui. C'est pour ça, quand je suis partie après en Angleterre, j'avais du souci. Je disais, mon Dieu, ils n'ont plus de paye, rien. J'avais du souci, bien sûr. Moi, je m'en suis toujours faite. D'ailleurs, quand ma maman couchais avec elle, puisque pour économiser du linge, eh bien, je la touchais dans la nuit de temps en temps. Je touchais si elle n'était pas froide, vous croyez? J'avais guère plus de 8 ans. Hein. Ah, mais j'en ai souffert de ça, moi. J'avais toujours du souci. Tout le temps, j'ai eu du souci comme ça. On ne se refait pas, hein, ça.
Comme dans mes pensées, que je mâche toute la journée.
Ils ont fait venir des orphelines de Marseille, quand même.
Oh, mais avant,
c'était... Mais avant, oui.
Moi, j'ai pas vu ça.
Ah non, puisque ma grand-mère en était une de ses orphelines.
Ma maman travaillait avec...
Ça remonte à disons, 840 et quelques.
D'accord, votre grand-mère, elle faisait partie de ces orphelines
de
Marseille.
Ah oui, oui. Mais ils étaient responsables jusqu'à la majorité. Et puis à la majorité, elle voulait dire oui. Et à la majorité, une de ces orphelines... Julie Durville, elle s'appelait, elle a épousé mon grand-père qui était au-dessus de... pour aller garder les chèvres, hein. Mais enfin, du moment que je peux chercher les orphelines, on comprend bien que ça devait pas être toujours brillant. Autrement, ils étaient partis. Ils en avaient amené plus d'une vingtaine, plus de 20.
Oui, elles étaient nombreuses.
Ah oui. Mm-hmm. Comme quoi, il y a toujours de la misère, hein.
Oui.
Tout
regarde. Ça, c'était votre grand-mère qui était une des...
La mère de mon père.
La mère de votre père.
Julie Durville. Ah oui. Non, du côté de chez mon père, c'est plutôt de l'Auvergne. Ils sont dans les parages de Saint-Flour, par là. Saint-Flour, c'est l'Auvergne pure, là-haut.
Oui.
D'ailleurs, des Vassals, il y en a beaucoup. Ici, il n'y en a pas ici. Très peu. Mais dans l'Auvergne, il y en a.
D'accord.
T'as dit que des Martins, il y en a beaucoup.
Ah, mais les Martins... Les Martins, c'est...
Des Martins, je crois qu'il y en a partout.
Partout, oui. Martin, Martino, en étranger, il y en a partout. En Espagne, en Italie.
De partout.
Vous avez connu des QR? Des QR, ça vous dit quelque chose?
Oui, il y en a. C'est dans la région, il y en a des QR.
Ouais, moi, ma famille, c'est QR.
Ah bon?
Oui. Du Coiron.
Ah ben oui. Autrement, il y en a ici, des QR.
Du Coiron?
Ma famille était du Coiron. Mon arrière-grand-mère...
Alors, à quel endroit?
Saint-Laurent.
Saint-Laurent, quoi?
Mais c'est pas loin.
Ouais.
Je connais, oui, Saint-Laurent, oui.
Ouais.
Perché là-haut.
C'est pas loin.
C'est assez drôle.
Ici. Voilà. Oh, c'est pas bien loin d'ici, non.
Et puis, elle avait 14 sœurs, et toutes ses sœurs travaillaient dans les moulinages, bien sûr.
Et puis, c'était des familles nombreuses à ce moment-là.
Ouais.
Je vois que chez ma maman, de chez ma grand-mère, elles étaient 10. Il y avait 5 filles et 6 garçons.
Mais c'est vrai que c'est les usines de soie qui ont fermé dans toute l'Ardèche, ça a été une perte pour tout le pays quand même. Hein. C'est sûr. Parce que comme je vous dis, si elle ne faisait pas vivre le pays, elle permettait aux gens de vivre sur le pays.
Elle faisait beaucoup.
C'était très important pour l'économie locale. Et oui, que maintenant...
Il n'y a plus
rien. Parce qu'il n'y a pas de misère. Hein. Pour qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait du boulot. Quand il y avait les usines, c'était facile. Mais... Be
en mai dernier, on a racheté l'usine.
Ah bon ?
Donc toute la partie, il y a la partie où il y a l'écomusée qui appartient à la mairie.
Oui, oui.
Donc il y a les deux étages au-dessus qui appartiennent à la mairie. Là, pour le moment, il n'y a rien. Mais après, le
reste... C'est la maison bourgeoise.
La maison bourgeoise. Mais le reste de, du bâtiment qui est le long de la rivière, plus le bâtiment au-dessus,
l'internat,
tout ça, ça, c'est le collectif qui l'a racheté.
Ah bon ?
Oui, on s'est créé en coopérative pour racheter ça. Donc, au départ, on était en association il y a 4 ans. Et il y avait
4 ans déjà.
Il y a 4 ans qu'on a commencé à faire des démarches pour essayer d'acheter. Enfin, au départ, ce n'était pas forcément pour l'acheter, mais pour voir si on pouvait faire quelque chose dans ce bâtiment qui était vide. On est plusieurs artistes à chercher des espaces pour répéter, pour travailler. Il y avait des artisans aussi qui avaient besoin d'ateliers pour travailler. Et en même temps, on voyait ce bâtiment vide, donc on se disait, bah, il y a quelque chose à faire. Donc on a commencé à rencontrer Monsieur Plantevin, donc Étienne, qui cherchait à vendre le bâtiment, mais qui voulait le vendre très très cher pour les promoteurs immobiliers, pour en faire du tourisme ou des appartements. Donc on a racheté l'usine il y a 6 mois maintenant, 9 mois. Et on a commencé à réhabiliter, à faire des espaces plus ou moins temporaires pour pouvoir... parce que c'est un chantier qui va être très long. Comme on décide d'être en auto-réhabilitation, de faire le chantier nous-mêmes, un peu par choix et aussi parce qu'on n'a pas les moyens de prendre des entrepreneurs pour tout faire. Donc on fait une grosse partie de nous-mêmes. Et donc là, pendant ces 9 premiers mois, ce qu'on a fait, c'est créer des espaces temporaires, un genre de salon, foyer, où on peut manger, être au chaud, isolé. On a mis des poêles, on a fait un dortoir pour tous les copains qui viennent aider sur le chantier. On a fait une salle qui peut servir un peu de salle de spectacle.
À l'internat.
À l'internat, ouais. Ah oui, ça c'est dans le bâtiment.
C'est plus récent que l'usine, ça.
Ouais, au moment t'as les escaliers. Ouais.
Et dans l'usine, pour le moment, on a tout ce qui est, on stocke tout notre matériel, on fait beaucoup de récupération de matériel. On est en lien avec une association à Alba la Romaine qui récupère des anciens décors de théâtre qui vont être bénés parce que les spectacles sont finis. Ouais. Et des trucs à l'Opéra de Lyon. Quoi, des très très gros décors.
Ah bon.
et ils les remettent en circulation. Donc nous on a récupéré plein de panneaux de théâtre et avec ça on a fait des cloisons intérieures. Voilà, mais je me dis comme vous avez bien connu l'usine, si ça vous dit de venir un jour et qu'on fasse une petite visite
avec de ce que c'est aujourd'hui. Avec Anne, parce qu'Anne m'a dit je vous mènerai pour le voir. Ah, j'ai dit volontiers.
J'aimerais bien qu'on fasse la visite ensemble.
Oui.
Avec plaisir.
Oui, comme vous voudrez, parce que si je n'ai pas revu depuis que je suis partie de l'usine, je ne suis pas retournée. Alors, j'avais 55 ans, j'en ai 88 cette année, au mois de mars. Alors, ça fait un moment. Hein.
Et ça vous dirait de venir voir ?
Ah oui, 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 bien sûr que je veux venir voir. Parce que ma belle-fille m'a dit, mon Dieu, si vous voyez, parce que c'était avant que vous y travailliez, puisqu'il n'y avait personne, elle m'a dit, mon Dieu, si vous voyez comment c'est. C'est tout cassé, c'est tout.
Alors quand ça fait... Non, c'est miteuse. Ça, c'est comme la nature, hein, ça va passer droit. Hein.
Il y a des arbres qui poussaient à travers les failles des murs et qui étaient en train de pousser les pierres. Et du coup, il y a de l'eau qui rentre. Là encore, il y a 2 semaines, on a encore eu un énorme dégât des eaux parce qu'avec les eaux qui ruissellent par les failles, ça rentrait dans le bâtiment, du coup, ça coulait à travers une pièce. Ça... Donc là, je pense que si personne ne s'était occupé de ce bâtiment pendant encore 5 ans, ça tombait en ruine. Vous lisez beaucoup ?
Ah oui, j'adore lire.
Vous avez toujours beaucoup lu ?
Ah tout le temps, oui. Même quand j'ai gardé une chèvre. Les chèvres d'aller bouffer la vigne du voisin, ils vont dingueuler, mais ça fait rien. Pas que je lis, je regarde que 3 pages. Mais ça me rend compte que j'ai lu 4 ou 5.
Non, mais ça y est trouvé, moi, vous avez...
Mais c'est ma mère qui m'a appris la lecture, quand même.
Oui. Qu'est-ce que vous aimiez lire ?
Oh, classique, mais n'importe. Mais enfin, les auteurs, moi, mes auteurs préférés, c'est... Bon, Victor Hugo, n'en parlons pas. Mais Clavel, tout ça. J'aime bien les histoires de pays comme le Languedoc là-bas. Ces histoires de paysans, de trucs. Si j'aime bien ces trucs. Une langue qu'on n'oublie jamais, c'est le patois. Parce que tout gamin, à la maison, on parle français, bien sûr. Mais dans le village, les vieux, même les autres, il parlait aux gamins en patois. Ce qui fait que, d'ailleurs à l'école, il ne fallait surtout pas parler patois. Au Malo, surtout pas. Maintenant, bon, ils en font que c'est bien le parler patois. Oui, c'est un patois grammatisé quand même. Hein. C'est pas le patois comme...
Celui qu'on apprend maintenant?
Oui.
L'Occitane.
De toute façon, dans l'Ardèche, il diffère. La basse Ardèche, le milieu et la montagne, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas le même patois. Disons, c'est un dialecte plutôt. Mais autrement, tout gamin, le patois, c'était... D'ailleurs, il y en a qui arrivaient à 7-8 ans à l'école, ils parlaient mieux le patois que le français. Ah oui, c'est sûr.
Tu as souvié. Moi, j'avais un cousin qui était de Vals, c'est pas loin, Vals. Et ses parents étaient boulangers. Il était fils unique. Eh bien, c'est ma grand-mère paternelle qui l'avait élevé. Eh bien, il parlait que patois. Et moi, je trouvais ça bizarre de l'entendre parler patois comme ça. Ça me faisait tout drôle, voir ce gamin.
Et vous, non, à la maison, vous parliez patois?
Ah non. Quand jeune, ça s'apprend facilement. Hein. Ça s'apprend bien de la langue d'origine.
Parce qu'il parle, il peut tenir une conversation.
Ah oui, le patois, oui.
Il peut tenir une conversation en patois.
Puis il y a des mots qui changent. Vous prenez, comme je vous dis, vous prenez la basse Ardèche et la haute Ardèche, et le milieu, ça change. Ça n'a pas du tout la même signification, pas du tout. Ça, c'est...
Oui, mais enfin, on arrive à le comprendre quand même.
Oui. Ah, tu sais, la montagne, ça tire plutôt de l'Auvergne.
Ah, mais certains mots.
C'est le l'écheux, là.
S'ils parlent, on les comprend quand même.
Oui.
Moi, vous comprenez, toujours... vous ne oui, parlez oui. pas, mais vous comprenez
je
tout.
Je comprends, oui. Oh, oui.
Et vous, ça vous arrive d'avoir des conversations en patois, alors?
Ah oui.
Dans quel contexte
mais... ça vous arrive? Quand j'étais à la commune, je vous dis en tant qu'élu, il m'arrivait d'aller... Je m'occupais, moi, des routes, de l'entretien des routes. Et il y avait des fois des problèmes pour un éboulement ou autre. J'allais chez les gens, chez le... Mais alors, chez le vieux paysan. Mais on parlait... Étant donné que j'étais du coin, quand même. Hein, tout le monde me connaissait, mais moi, je connaissais tout le monde. Alors, on dit, c'était un patois. C'est sûr. Je me rappelle Gabriel, là-haut. Et puis, bon, mais... Parce que le maire... D'ailleurs, Loïc, il me disait, mais vas-y, toi, va. Parce qu'il savait qu'avec les gens du pays, c'était plus facile. Plus facile d'avoir un résultat, si on peut dire. Parce que le maire, pour certains, c'était le monsieur. C'est vrai qu'il est officier de police dans sa commune, c'est vrai. Mais pour nous, c'était un homme comme l'autre.
Ça, c'était Jean Plantevin.
Non.
Hein?
C'était Paganelli.
Paganelli.
Vous étiez conseiller municipal sous Paganelli.
25 ans.
Moi, je suis resté 18 ans, lui 25 ans. Moi, je vous
on a fait 25 ans parce qu'il y a eu l'élection du président de la République. Ça a retardé d'un an. Alors, bon, après, je me suis retiré et j'ai dit...
Parce que les gens, ils respectent pour un oui ou un non. Ils étaient toujours appelés parce que Paganelli n'habitait plus à Chirol. Il était allé habiter à Saint-Julien-du-Cerf. Et il n'était jamais là. Alors, où c'est qu'on téléphonait, c'était ici. Alors, moi, à force que j'entendais Rousseau.
Attends, moi, je m'entendais très bien que le livre, là. On avait des fois. On n'avait pas. On ne partageait pas toujours le même point de vue, mais ça fait rien.
Mais il le faut comme ça, c'est normal. On ne peut pas être tous d'accord de la même façon.
D'ailleurs, on a eu des problèmes. Il venait nous voir, nous, parce qu'on était du pays, il n'allait pas voir le maire. Hein. Non. Tu te rappelles pour la source alors de Valérie?
Ah,
la
oui.
source pour la. Il est venu trouver la Nevada là-bas.
Oui.
J'ai dit, mais il faut voir là-bas. J'ai dit, mais on verra au conseil. Mais non, je ne vais pas voir le maire. C'est pas une animosité, c'était simplement parce que c'était un étranger. Parce que bon.
Et puis lui, finalement, il est bien resté ici. C'est vrai.
Et ce qu'il avait à son désavantage quand il est venu. Il était exactement comme les hippies. Une barbe comme ça, il était noir, tout noir, bien sûr. Alors, il n'attirait pas trop confiance au départ, vous comprenez?
Oh, mais on lui a fait confiance.
Ah oui, non, mais tout à fait, moi. Après, quand on s'est connus, c'était impeccable. On s'entendait à merveille, tous les deux. Mais je vous dis, parce qu'on n'a pas toujours eu les mêmes idées, mais il faut respecter chacun son point de vue. Et le plus fort, c'est que chacun croit et est persuadé d'avoir raison. C'est sûr.
Diable.
Moi, j'étais persuadé de les comuser. C'était peut-être une idée du paysan, mais elle avait celle du Parisien. Et lui, Et ça peut bien que son idée à lui était meilleure que la mienne. Hein.
Et peut-être que vous aviez raison tous les deux.
Dans un sens, oui. Dans un certain sens, oui.
Oui, parce qu'à ce moment-là...
Seulement, comme je vous dis, moi je voyais sur le plan d'intérêt. Lui sur le plan culturel. Et...
Moi j'avais parlé avec le docteur Saru une fois, et puis M. Blantevec, que j'avais vu. Et je lui disais qu'on serait été pour une maison de retraite. Ça pouvait y être avec le large qu'il y avait. Et alors il m'a dit, mais nous on serait été d'accord avec vous.
Non, mais c'est bien comme ça.
Bon, mais il y a deux étages au-dessus, où pour le moment il n'y a rien. Peut-être qu'un jour ce sera une maison de retraite.
C'est plus difficile, je pense, maintenant pour avoir une maison de retraite. Parce qu'à l'époque, quand je parle, il en a fait une Ginestelle là-haut. Ah putain, Ginestelle, c'est vraiment un camo ça là-haut. Parce qu'elle en avait un site formidable, en bord de la route, le parc, impeccable, et la tranquillité.
C'était Le Moulinage en chantier, l'émission du collectif du Moulinage de Chirolles. Nous allons terminer cette émission avec Marcel Bonneau, ancien commerçant à Pont-de-Verrières. Il est aux côtés de Naka et de la famille Vert que nous avions déjà tous entendus dans les éditions précédentes du Moulinage en chantier. Vous pourrez réécouter cette émission comme les précédentes sur le site du Moulinage, www.lemoulinagedechirolles.org. N'hésitez pas à réagir à cette émission en nous envoyant vos impressions sur contact@lemoulinagedechirolles.org. À la prochaine.
Je vais vous dire une phrase en patois.
Ah, volontiers.
Vous essaierez de comprendre.
D'accord.
Le pont de Vireiro, cause nembu, tout sort que c'est l'Issac, on n'en sort plus. Le pont de Verrières, c'est un entonnoir, tout ce qui y rentre n'en sort plus. Vous voyez, c'est la devise du pont de Verrières.
C'est la devise du pont de
Verrières. Voilà. Oh.
Ce qui entre n'en sort plus.
Voilà.
Donc ça veut dire qu'on est pris au piège, nous.
Ah, vous êtes pris au piège, vous n'en sortirez plus.
Vous êtes un peu un peu.
Oui, oui.
Ça va, c'est un bon piège. On est content d'y être.